Scene one, Apple, take two.
En direct de Cannes, voici La Passion du 7e art.
Bonjour à tous, alors oui, nouvelle journée à Cannes et on va commencer en parlant d'une autre facette un petit peu du Festival de Cannes, celle qu'on ne voit pas forcément sur les tapis rouges, parce qu'ici en fait, voir des films relève parfois du parcours du combattant. Même en étant réveillé à 7h pour l'ouverture de la billetterie, certaines séances affichent complet en quelques secondes, il n'est même pas 7h01 que déjà tout est complet. C'est à se demander comment cela est possible, mais alors Cannes, voilà, c'est aussi ça, hein, courir après les projections, réorganiser son planning et rattraper les films le lendemain entre deux conférences. Et justement, après vous avoir parlé hier des histoires de Moulin et Garance, que j'ai pu donc rattraper hier, j'avais envie de revenir un petit peu sur les interprétations, parce que à Cannes, ce qui marque souvent aussi au-delà du scénario, c'est la puissance du jeu des acteurs dans ces films. Il y avait vraiment quelque chose de très juste, de très incarné. Pas de surjeu, pas d'effet spectaculaire inutile, hein, simplement des regards, des silences, des émotions qui restent après la séance. Et c'est souvent ça qui fait les grands films finalement du festival. Donc j'ai aussi ensuite après pu découvrir le film Le Corset, un très beau film d'animation de Louis Clichy. Et honnêtement, ça fait plaisir de voir l'animation trouver autant sa place ici à Cannes. Alors l'histoire se passe dans une ferme au cœur de la Bosse. Christophe, 11 ans, tente de suivre les traces de son père alors qu'il doit porter un corset pour corriger sa posture et tenir droit. Alors entre les difficultés de la ferme, la découverte de la musique et sa rencontre avec Clara, il va apprendre peu à peu à grandir et à trouver sa propre voie. Alors le film est très poétique visuellement, avec une vraie douceur dans la narration, on sent un énorme travail artistique derrière chaque image, c'est presque comme des tableaux qui prennent vie. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce film d'animation, ça fait vraiment plaisir à voir. Et alors, petite anecdote du jour, assez savoureuse, je suis allée voir le film du dernier Almodovar, donc j'étais dans la salle et au moment où l'ambiance était très intense à l'écran, un téléphone se met à sonner dans la salle. Et alors là, timing parfait, la réplique suivante du film tombe et vous pouvez éteindre vos téléphones s'il vous plaît. Autant vous dire que toute la salle a explosé de rire, même les gens un peu agacés n'ont pas pu se retenir. Voilà pour la petite anecdote. Et maintenant, je vous laisse, Pascal, le micro pour nous parler de la sélection officielle.
Oui, sur Le Corset, je suis tout à fait d'accord avec vous, Mathilde. C'est vraiment l'un des plus beaux films de Cannes et un film d'animation qui, on espère, aura trouvé son public parce que l'année dernière, on se souvient de Monsieur Marcel en hommage à Pagnol et ça n'a pas fonctionné plus que ça et c'est bien dommage. Alors nous, le matin, on l'a commencé avec un certain regard, avec une première expulsion, hein, puisque à 8h32, on nous a refusé l'entrée du Grand Théâtre Lumière et on a raté L'Inconnu, donc on essaiera de vous parler demain en récupérant au marché du film la séance, puisque les séances officielles sont terminées. Alors, par contre, en deuxième partie de matinée, il y avait Benimana. Benimana, c'est une grande première, puisque c'est un premier film, mais une grande première pour le Rwanda, parce que c'est le premier film rwandais qui a été présenté par Thierry Frémaux dans cette sélection officielle parallèle qui est Un Certain Regard. Alors, on a pu découvrir l'œuvre de Marie-Clémentine Duzabé-Jembo, qui franchement a fait un excellent travail, très compliqué, très difficile, très subtil sur ce qui s'est passé, donc le massacre au Rwanda entre les Hutus qui ont massacré les Tutsis, et comment on peut reconstruire un pays, comment on peut pardonner les actes d'atrocité terribles, d'une violence inouïe qui ont été commis lors de ce massacre ethnique qui a traumatisé, qui traumatise encore le pays. Vraiment, elle a été très applaudie, c'est normal. Et tous ces personnages de femmes qui essayent de trouver une solution, eh bien, nous ont particulièrement plu. En compétition officielle, donc, il y avait Minotaure, le dernier film de Andrei Zvigentsev, qui a eu en 2003 le Lion d'Or à Venise pour Le Retour. Ensuite, on l'a vu à Cannes pour Le Bannissement, notamment pour sa première sélection en compétition officielle en 2007. 4 ans plus tard, il a eu le prix spécial du jury à Un Certain Regard pour Elena, Et ensuite, il a présenté en 2014 Léviathan, qui a remporté le prix du meilleur scénario. Il est revenu avec ce film au César, puisqu'il a eu le prix du meilleur film étranger. Et en 2018, il a présenté encore au Festival de Cannes Faute d'amour. Voilà. Donc là, il nous revient après, oui, une bonne dizaine d'années de silence. Entre-temps, il a eu une forme de Covid assez sévère. Puis il a critiqué Vladimir Poutine pour la guerre en Ukraine, mais il a également dénoncé le boycott de la culture russe, qui lui semble inadmissible. Là, il nous revient donc avec un film sur un chef d'entreprise qui doit mobiliser une partie de son personnel, qui doit partir en opération spéciale sur le front ukrainien. Comme il ne veut pas se séparer de ses propres collaborateurs, il va embaucher 14 employés comme chauffeurs-livreurs, des anciens militaires, qu'il va en quelque sorte donner cette liste au maire de la cité pour qu'il ne touche pas à ses précieux collaborateurs. Mais l'histoire dans l'histoire, c'est que ce personnage a une femme sublime, Iris Lebanova, et elle a un amant parce que son mari la considère comme une boniche et qu'il ne la regarde plus comme la femme désirable qu'elle est. Et ensuite, je m'arrête là parce que sinon, je vous spoilerai totalement le film. Ça nous a pas forcément totalement, véritablement convaincu, le Minotaure. Hein. On a préféré, bien sûr, nettement, Autofiction, le dernier film de Pedro Almodovar. Alors, c'est un film à tiroir, c'est un film dans le film, c'est un film où on dirait qu'il parle au jury en disant « Oui, c'est peut-être pas mon meilleur film, c'est peut-être pas mon meilleur scénario, mais c'est une maîtrise totale des personnages, puisque c'est un écrivain qui écrit un scénario pour faire un film, donc Pedro Almodovar, mais en même temps, à l'intérieur, il y a plusieurs femmes qui vivent des situations dramatiques et qu'on dirait que c'est la vraie vie. Alors, où est la fiction? Où ça s'arrête? Où est l'autobiographie? Où est donc l'autofiction? D'où le titre du film. Bon, avec Pedro Almodovar, bien sûr, il faut savoir ses codes. Et là, la luminosité du film, l'éclairage, les couleurs, tout. Et puis ces personnages, il a quand même un type de femme, Pedro Almodovar, c'est la brune, cheveux mi-longs, mi-courts, et qui est séduisante et qui a une profondeur de regard qui lui plaît particulièrement. Penélope Cruz, Victoria Abril, on fait partie de ses muses. On espère beaucoup pour lui que ce film soit celui de la Palme d'Or, parce qu'il le mériterait tellement pour toute la filmographie qu'il a. Et d'ailleurs, il le dit un petit peu dans le film. Il s'entourait vraiment de tous ses acteurs fétiches, mais également de... bon, il y a Rossi de Palma, bien sûr, qui est pratiquement dans tous ses films, depuis La Moveda. Il y a Barbara Leni, qui a eu le Goya de la meilleure actrice en 2015 pour La Niña de Fuego. Et il y a eu l'acteur argentin Leonardo Sbaraglia, qui était déjà dans Douleur et Gloire en 2019, mais qui est également, on l'a entreaperçu dans Karma, l'excellent film hors compétition malheureusement de Guillaume Canet. Et il y a également Aitana Sanchez-Rirón, qui avait eu un Goya d'honneur en 2025. Il y a Victoria Luengo, qui est la partenaire de Javier Bardem, ici même à Cannes, dans L'être aimé. Donc, il y a également l'acteur de série Patrick Riado, ou encore Milena Smith, qui était déjà dans Madre Paralelas, ou Kim Gutierrez, qui a eu un Goya de la révélation masculine en 2007 pour Azul. En fait, au cinéma, Pedro Almodovar est fidèle à son équipe, fidèle à ses acteurs, fidèle à ses actrices, et Autofiction, c'est un très très beau film qui mériterait bien sûr d'être au palmarès, et peut-être plus pour la Palme d'Or. Ce serait tellement justifié, on serait tellement heureux pour lui qu'on irait du coup à la conférence de presse du jury pour pouvoir le féliciter et lui poser l'ultime question sur cette palme qu'il a tant attendue. Il a eu un Lion d'Or à Venise, mais ce qui le ferait le plus plaisir, c'est très certainement d'avoir une Palme d'Or au Festival de Cannes. Et il tomberait bien sûr dans les bras ensuite de son ami Thierry Frémaux, qui, je pense, dans un coin de sa tête, espère beaucoup que ce sera son année 2026 à Pedro Almodovar. Et nous, on vous dit avec Mathilde, à demain en direct de Cannes.